antenne, Fabienne.
Et merci, Charline et les amis. Ravi de vous retrouver. À demain, bien sûr, pour nous, c'est parti. Le 18-20 de France Inter est ouvert. Attention au départ. Et soyez les bienvenus sur la planète et sa banlieue. Le 18-20 s'ouvre, comme chaque soir, avec ce que vous devez savoir de l'actualité de ce mercredi 1er décembre, avec le journal de Sébastien Legénie. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
L'essentiel commence ce soir par un lycée sous haute tension.
Le lycée Jean Rostand de Mantes-la-Jolie dans les Yvelines, au cœur depuis hier de violences inhabituelles, tirs de mortier dans les couloirs. Hier matin, incendie d'une voiture, les enseignants ont décidé d'exercer leur droit de retrait. Explication dans un instant. Comment accélérer la prise de la dose de rappel contre le Covid, les autorités entendent favoriser la vaccination en ville par les médecins, les pharmacies ou les infirmières avec à la clé un peu plus d'argent pour les soignants. À suivre aussi des manifestants pro et anti-IVG devant la Cour suprême américaine où se joue aujourd'hui l'avenir du droit à l'avortement. Des dérogations au droit d'asile autorisées en Europe afin de résorber la crise migratoire avec la Biélorussie. Et puis du cirque pour terminer avec le dernier spectacle des étudiants du Centre National de Châlons-en-Champagne.
À 18h15, un jour dans le monde. Nous aussi, nous sommes devant cette Cour suprême qui commence à examiner cette loi très contraignante sur l'avortement. Une loi venue du Mississippi. On essaiera de voir ce que ça veut dire d'un point de vue juridique, surtout aux États-Unis. Et puis à 19h20, c'est le téléphone sonne. Ce soir, on regarde deux chiffres. Celui qui dit que de plus en plus d'entreprises diversifient leur personnel réellement. L'autre chiffre, c'est celui qui dit que quoi qu'il en soit, un candidat issu de la diversité aura toujours 32% de chances de moins de franchir la première phase d'un recrutement. C'est le téléphone sonne. Et ça se passe au 01 45 24 7000.
France Inter.
Des violences donc inquiétantes à l'intérieur d'un lycée de région parisienne.
Il s'agit du lycée Jean Rostand de Mantes-la-Jolie, dans les Yvelines, situé à proximité du quartier du Val-Fouré, un lycée réputé sensible et qui depuis hier connaît donc des troubles graves, tirs de mortier, départ d'incendie volontaire. Bonsoir William Gay-Costa.
Bonsoir.
Situation tendue au point que toute l'équipe pédagogique de cet établissement d'un millier d'élèves a décidé de cesser les cours.
Oui, les enseignants ont estimé qu'il n'était tout simplement plus possible d'enseigner en toute sécurité. C'est ce que nous explique Warda Benkanouche, conseillère prioritaire d'éducation, la CPE du lycée. Elle est aussi élue SNES FSU. Avec ses collègues, elle craint que l'histoire ne se répète si rien n'est fait.
Effectivement, ça peut se reproduire parce que malgré tout, dans notre malheur, on a eu la chance que personne ne soit blessé, ni élève ni adulte. C'est plutôt, oui, cette appréhension-là, si ça se reproduit, qu'au final, les conséquences soient plus dramatiques que des conséquences matérielles.
Selon une partie du personnel, l'une des raisons pour expliquer ces débordements, c'est la suppression d'un poste de CPE l'année dernière. À la rentrée, il n'était plus que 3 au lieu de 4 pour encadrer les lycéens. Un poste dont Warda Benkanouche ressent le manque.
En fait, il aurait permis, dès le début de l'année, de pouvoir dégonfler certaines situations, certains problèmes de comportement, pouvoir faire le travail de suivi qu'on a auprès des élèves, qui peut permettre d'apaiser les choses.
Demain, les cours seront à nouveau banalisés pour entamer une réunion de concertation entre l'académie et les enseignants pour permettre, je cite, un retour serein en classe. Pas question pour l'instant de dépêcher un conseiller prioritaire d'éducation en plus, mais un AED, un surveillant à mi-temps, travaillera au lycée Jean Rostand jusqu'à la fin de l'année.
William Gay-Costa, merci.
Le débat sur l'obligation vaccinale monte en Europe.
Débalancé hier par l'Allemagne, où le futur chancelier Olaf Scholz s'est dit favorable à une obligation de vaccination pour tous. Avis partagé aujourd'hui par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, pense qu'il est raisonnable, dit-elle, et approprié d'avoir une discussion sur la question maintenant. En France, quelques voix montent également en faveur de cette obligation vaccinale. On en reparle dans le journal de 19h. Mais à ce stade, les autorités se concentrent surtout sur l'embouteillage créé depuis une semaine par l'ouverture de la dose de rappel à tous les adultes. Pas de raison de s'inquiéter, selon le ministre de la Santé. Vacciner 18 millions de personnes, explique Olivier Véran, ne peut pas se faire en une semaine. Le ministre qui ajoute que toutes les injections nécessaires pourront avoir lieu d'ici 7 à 8 semaines. Alors pour y parvenir, 300 centres de vaccination de plus seront bientôt rouverts. Surtout, le gouvernement compte mobiliser davantage la médecine de ville, pharmaciens, généralistes et infirmières. Et ça passe, Hélène Chevalier, par des hausses de rémunération.
À commencer par les infirmiers libéraux. Actuellement, ils ne pratiquent que 10% des vaccinations en ville. Et pour cause, explique Catherine Kirnidis, l'acte était jusqu'ici rémunéré 9,15 euros. Pas très compétitif face à des centres de vaccination beaucoup plus généreux. Cette infirmière libérale exerce à Avignon.
Au maximum, en une heure, on peut faire 3 vaccins à domicile à condition que les gens soient proches les uns des autres. Et vraiment, il ne faut pas qu'il y ait d'autres contrariétés, il ne faut pas qu'il y ait de problèmes de circulation, il faut qu'on puisse stationner. et on a un temps limité. À partir du moment où on a préparé les doses, il faut qu'on les injecte le plus rapidement possible. Donc il fallait absolument une rémunération plus intéressante pour que les infirmiers qui s'y engagent ne soient pas perdants.
Les infirmiers libéraux toucheront maintenant 5 euros de plus par acte, même revalorisation pour les pharmaciens qui vaccineront le dimanche. L'objectif, c'est de multiplier les créneaux de proximité, que les Français privilégient leurs professionnels de santé pour effectuer leur dose de rappel, plutôt que des méga-centres de vaccination, moins accessibles pour certains et surtout plus coûteux pour l'État.
Hélène Chevalier, ajoutons que face à la menace du variant Omicron, la France durcit les conditions d'accès à son territoire. Il faudra désormais un test négatif de moins de 48 heures pour tous les voyageurs, même vaccinés, provenant d'un pays hors de l'Union européenne. Et un test de moins de 24 heures sera aussi exigé pour les non-vaccinés en provenance d'un pays européen. Les vols avec les 10 pays d'Afrique australe particulièrement sensibles reprendront à partir de samedi, mais avec un encadrement extrêmement strict. Test et isolement obligatoire minimum de 7 jours pour les Français, les diplomates ou les personnels navigants de retour de ces destinations. Enfin, selon le porte-parole du gouvernement, la France compte à ce jour sur son territoire 13 cas suspects du variant Omicron.
C'est une audience cruciale pour l'avenir du droit à l'avortement aux États-Unis.
Les 9 sages de la plus haute instance judiciaire du pays sont en effet réunis depuis 2 heures maintenant pour examiner une loi votée par le très conservateur État du Mississippi. On vous en parle depuis ce matin. Cette loi interdit l'IVG après 15 semaines de grossesse, un texte qui contrevient à l'arrêt qui régit cette question de l'avortement aux États-Unis depuis un demi-siècle, le célèbre arrêt Wade contre Roe, aujourd'hui menacé donc, car le rapport de force au sein de la Cour suprême a changé depuis Donald Trump. La Cour est désormais majoritairement composée de magistrats conservateurs. Bonsoir Sébastien Paour.
Bonsoir.
Correspondant à Washington pour Inter, la tension est très forte dans le pays. Les deux camps, Sébastien, pro et anti-avortement, sont venus manifester aujourd'hui devant la Cour suprême.
Ah oui, c'est un vaste capharnaüm devant le grand bâtiment blanc qui se trouve juste derrière le Capitole ici à Washington. Les slogans « Nos corps, notre territoire » sont juste à côté de pancartes où il est écrit que l'avortement est un meurtre. Et c'est pareil, vous l'entendez, dans les enceintes installées au pied des marches de la Cour suprême. C'est une loi du Mississippi, effectivement, qui est discutée, qui veut interdire l'avortement après 15 semaines de grossesse. Il y aura sans doute après celle du Texas, avec potentiellement ensuite une remise en cause du droit à l'avortement lui-même, qui date de 73, vous l'avez rappelé. Alors Beata, 68 ans, est venue du Michigan, dans le nord du pays. Elle raconte le moment, à 38 ans, quand le médecin lui a annoncé que sa grossesse de 16 semaines n'était pas viable. Il m'a dit, ne vous inquiétez pas, je vais vous prendre rendez-vous pour un avortement. Vous irez à l'hôpital, ce sera sans danger, tout ira bien. Et il m'a aidé à passer ce traumatisme avec compassion et avec l'efficacité médicale. Si j'avais vécu au Texas ou dans le Mississippi, ça n'aurait pas été possible aujourd'hui. Et je suis tellement reconnaissant pour ce droit essentiel des femmes. Un droit qui date de l'arrêt Roe contre Wade, donc de 73, mais qui n'a plus rien d'évident et qui doit être remis en cause. Ça, ce sont les militants pro-life, pour la vie, qui sont venus avec leurs images de fœtus ensanglantés devant la cour, qu'ils disent, comme Marie-Rose, 40 ans, elle n'a pas hésité, elle, à prendre un vol depuis la Californie. Nous sommes un pays divisé sur l'avortement, c'est à peu près 50-50. Mais c'est l'affaire d'avortement la plus importante que nous avons à la Cour suprême depuis longtemps. Et c'est la meilleure chance qu'on a jamais eue d'annuler Roe contre Wade. Je ne sais pas ce qui sera décidé, mais c'est la meilleure chance. On n'a pas eu de comme ça depuis des décennies. À l'intérieur du bâtiment, les 9 juges, dont 6 conservateurs, interrogent les avocats du Mississippi. Ils doivent rendre une décision avant le printemps.
Sébastien Paour en direct de Washington. Après les cinémas Gaumont, France 24, Radio France, France Télé ou l'INA, c'est au tour de l'agence France Presse de protester contre le clip de lancement de campagne d'Éric Zemmour, l'AFP qui menace le candidat à la présidentielle de poursuite pour avoir utilisé des images lui appartenant sans autorisation. On apprend aussi ce soir qu'Éric Zemmour voit plus grand pour son premier meeting de campagne. Il devait commencer au Zénith de Paris ce week-end. Ce sera finalement le parc des expositions de Villepinte. Au chapitre politique encore, les 140 000 adhérents des LR votent depuis ce matin pour départager les 5 candidats à la primaire des Républicains. Ce midi, la participation atteignait les 25%. Fin du premier tour demain 14h et résultat définitif du scrutin qui s'annonce serré samedi après-midi. Pendant que les LR se comptent dans les urnes, une autre partie de la droite joue la partition du Rassemblement, le nouveau parti de l'ancien Premier ministre ministre Édouard Philippe, soutien de la majorité présidentielle, le parti Horizon, tenait aujourd'hui son premier meeting à Nice. Bonsoir Yael Gauz.
Bonsoir Sébastien.
Et Horizon affiche de nouveaux soutiens.
Oui, à Nice, les Alpes-Maritimes, symbole des frères ennemis Ciotti et Estrosi, symbole du schisme amorcé au régional entre la droite Macron-compatible et la droite anti-Macron. On savait déjà de quel côté penchait le maire de Nice. On sait maintenant où et comment Christian Estrosi va aider le président pour 2022.
Je vous annonce qu'en rejoignant aujourd'hui Édouard Philippe au sein d'Horizon, je m'inscris au sol de la seule organisation politique qui peut aujourd'hui légitimement revendiquer cet héritage.
Christian Estrosi au micro de Laurent Vareille de France Bleu Azur, héritage de droite, le RPR, l'UMP, les années Sarkozy, un héritage qui a sa place dans Horizon, l'un des étages de la nouvelle maison commune inaugurée lundi, Ensemble Citoyen, qui réunit toute la majorité présidentielle sous la même bannière. Édouard Philippe ne perd pas de temps, faire travailler la poutre à droite encore et encore.
Christian, à Nice, moi-même au Havre, nous avons besoin de faire en sorte que nos idées, nos convictions soit présente dans la future majorité. Il faut se regrouper et mener une action collective.
Édouard Philippe et son réseau de maires dans les starting blocks de la recomposition, car la semaine est décisive avec le choix du candidat chez les Républicains. Horizon, futur centre d'accueil pour LR en déshérence. Sa petite boutique grossit gentiment mais sûrement, raconte un proche d'Édouard Philippe, un pied en 2022 au service d'Emmanuel Macron, l'autre en 2027 à son propre compte.
Yael Gauz, chef du service politique d'Inter, merci. C'est une nouvelle saluée par la ministre de la Mer. L'île anglo-normande de Guernesey a décidé d'accorder 40 licences de pêche de plus à des bateaux français. Le combat n'est pas terminé, souligne toutefois Annick Girardin. 111 licences restent à obtenir, selon elle. Autre dossier européen sensible, la crise migratoire entre la Biélorussie d'une part et de l'autre, la Pologne, la Lituanie et la Lettonie. La Commission européenne propose aux trois pays concernés de déroger à certaines dispositions du droit d'asile. La proposition doit encore être avalisée par les 27 États membres, mais elle provoque déjà la colère des ONG. À Bruxelles, Angélique Bouin.
Si les 27 le valident, ces trois pays pourront étendre la période d'enregistrement des demandes d'asile à 4 semaines au lieu de 10 jours maximum et garder jusqu'à 16 semaines au lieu de 4 les migrants dans des centres de rétention à la frontière. L'idée, c'est de laisser plus de temps aux autorités pour les accepter ou les renvoyer et les renvoyer via une procédure dite plus rapide et simplifiée. Tout cela dans le respect du droit européen, se défend la commissaire aux affaires intérieures, Ylva Johansson.
Cela signifie que l'on montre, que l'on offre à différents égards, une flexibilité. Mais en maintenant le droit d'asile, le principe de non-refoulement, le droit à un abri, à un conseil juridique, à un procès juste, à un accompagnement pour mineurs, les droits fondamentaux sont respectés.
Plusieurs ONG condamnent cette initiative de la Commission qui renforce l'Europe forteresse, dénonce par exemple Oxfam. L'eurodéputé centriste Fabienne Keller, qui suit ces questions, estime de son côté que ce régime dérogatoire ne peut être que provisoire et demande un contrôle systématique des centres d'accueil par les agences de l'Union. Actuellement en déplacement en Pologne, à la frontière justement, l'eurodéputé n'a pas eu accès à la zone placée en état d'urgence par le gouvernement. Bruxelles, Angélique Bouin, France Inter.
Et Sébastien, on termine sous un chapiteau.
Sous le chapiteau Endur du CNAC, le Centre National des Arts du Cirque à Châlons en Champagne, avec le spectacle de fin d'année de la 33e promotion After All, un spectacle imaginé par la metteuse en scène Séverine Chavrier, en collaboration avec les 15 jeunes artistes de cette promotion, originaire de 7 pays différents. Un retour aux fondamentaux, Stéphane Capron.
Cette promotion du CNAC, qui a traversé pendant 2 ans la pandémie, avait envie de mettre l'esprit de fête au cœur de son spectacle. La trapéziste Lucia Edge Torres est espagnole.
Je trouve que dans la société aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de temps mort. Les gens travaillent, on est beaucoup dans la productivité. Et la fête, c'est ce temps mort rempli, mais vide, où les gens se retrouvent avec eux-mêmes.
Ces artistes ont travaillé avec Séverine Chavrier, qui ne vient pas du cirque, qui est une metteuse en scène de théâtre, une ouverture bienvenue pour la file de feriste Victoria Lemari.
Ça nous a un peu montré aussi des fragilités qu'on pouvait avoir chacun et aussi à quel point on s'accroche à notre agré et à quel point on a du mal à sortir de ça et du coup ça nous pousse un peu vers d'autres horizons et c'est super intéressant.
Il y a de plus en plus chez les jeunes artistes de cirque l'envie de retourner vers la tradition et notamment de pratiquer leur art sous chapiteau. C'est le cas de Kim Marron qui pratique la roussir.
Ça devient de plus en plus un rêve de chacun, de retourner dans la boue, d'avoir froid. Je trouve qu'il y a vraiment une âme et quelque chose que c'est dommage de le perdre. Et je trouve que c'est assez riche d'avoir ça, que dans les théâtres, c'est plus neutre ou il y a moins l'âme de l'artiste.
Cette promotion du CNAC va pouvoir goûter à la vie nomade, car le spectacle va tourner sous chapiteau en 2022.
Et avant de partir en tournée l'année prochaine, After All se joue jusqu'au 12 décembre à Châlons-en-Champagne.
Formidable, merci beaucoup Sébastien. À tout de suite dans Un jour dans le monde, vous nous parlerez notamment de la ville la plus chère du monde.
En effet.
Ce soir, nous essayons de comprendre ce qui se passe autour de l'avortement donc aux États-Unis devant la Cour suprême en ce moment même. Et puis en deuxième heure, à partir de 19h20, c'est le téléphone sonne à vos appels. Vous avez peut-être noté qu'on parle beaucoup d'immigration dans cette campagne. En revanche, on ne parle pas embauche et intégration. Eh bien, si l'on en croit le sommet de l'inclusion économique qu'a accueilli Bercy cette semaine, oui, les entreprises conscientes de l'université, de l'uniformité de leur personnel font des efforts. Mais oui aussi, un jeune maghrébin devra envoyer 4 fois plus de CV pour espérer passer la barre du premier entretien. Ce sera le téléphone sonne au 01 45 24 7000. Un œil sur le ciel avant de continuer.
La météo avec les poulets de Loué. Régalez-vous d'un savoureux poulet fermier de Loué, élevé en liberté. Loué, libre par nature.
Et Jean-Pierre Rameau, bonsoir. Encore beaucoup d'averses, Jean-Pierre, pour ce soir.
Et oui, Fabienne, les averses sont parfois copieuses en cette fin de journée, en particulier du côté de la région Grand Est. Les pluies sont parfois soutenues aussi entre l'Hérault, la basse vallée du Rhône et les Alpes du Nord. Elles vont toucher la Côte d'Azur en soirée.
Et sinon, pour demain?
Eh bien, pour demain, bonne nouvelle. La journée sera bien ensoleillée du côté du Languedoc-Roussillon jusque vers la région PACA. Prévoyez de belles éclaircies entre le Grand Sud-Ouest et Poitou-Charentes, mais aussi du centre au Nord-Pas-de-Calais, en passant par l'île de France et de la Normandie au pays de la Loire. Partout ailleurs, les nuages seront quand même plus nombreux, avec en prime des averses de pluie, voire de neige en basse altitude, sur tous les massifs montagneux. Côté température, les minimales en fin de nuit seront froides, généralement comprises entre moins 1 et 5 degrés. De faibles gelées blanches se produiront localement. Et puis les maximales repartiront à la baisse, pour évoluer généralement entre 4 et 9 degrés. Prévoyez 11 à 15 degrés près de la Grande Bleue.
Jean-Pierre Rameau de Météo France, merci beaucoup. Jean-Pierre, à tout à l'heure, après 19h.